Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine dans Silence on joue, le sixième épisode de la saison 11 de Silence on joue, rappelez-vous, hein, on remet les marqueurs. On va parler de Star Wars Battlefront 2, on va aussi parler, ça fait combien de temps qu'on n'en a pas parlé de cette licence dans Silence on joue, ça fait très longtemps, peut-être depuis, est-ce qu'on en a déjà parlé? Non, si, on en a déjà parlé. On va parler de Call of Duty World War 2, et puis on parlera en fin d'émission, peut-être sans doute un peu plus rapidement, de South Park, l'annale du destin. Donc le nouvel épisode du RPG South Park made by Ubisoft. Et voilà, vaste programme que je vais faire en compagnie de deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, de retour. C'est la deuxième émission de la saison quand même.
Oui, c'est vrai, c'est un plaisir de,
oui, quand même.
De revenir.
Ça fait plaisir.
Bonjour Erwan.
Et Mathias Lavorel pour ta deuxième émission tout court, hein, de ta deuxième apparition dans Silence on joue et pas la dernière, bien sûr.
J'espère.
Et de No Life, hein, donc tu chroniques dans No Life, des critiques sur No Life. Bon, on dit pas dans, on dit sur, c'est une chaîne de télé.
Non, c'est un peu partout.
Voilà, on va commencer avec toi, partons loin, parlons du...
On est dans une émission placée sous le signe des pochettes surprises aujourd'hui, donc on va parler cadeaux bonus, cadeaux Nesquik, vous vous rappelez, les Nesquik, bon, il y avait des petites pochettes surprises. Nintendo va faire plus fort que ça, hein. On a appris cette semaine que le Super Mario Céréales arrivait aux États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une boîte, c'est intéressant. En fait, c'est un deal qui a été... Qui est sorti cette semaine entre Nintendo et Kellogg's, donc le fabricant de céréales. Donc c'est un modèle de céréales, donc avec des formes qui rappellent évidemment l'univers Nintendo, les personnages, etc. Mais la vraie valeur ajoutée de cette boîte de céréales, c'est qu'elle fait office d'Amiibo aussi, en fait. Elle contient puce NFC a priori sur la boîte qui permet a priori donc d'avoir le même usage qu'une figurine Amiibo. Alors pour l'instant c'est uniquement programmé pour le marché américain, ça doit sortir dans les jours qui viennent.
C'est-à-dire que tu te ramènes avec ta grosse boîte de céréales.
Exactement.
Que tu poses sur ta DS ou
tu scannes avec ta Switch, et donc a priori ça serait donc compatible avec le dernier jeu Super Mario. Alors pour l'instant c'est uniquement pour le marché américain a priori. Pas d'annonce pour l'Europe. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne suis pas sûr. Il faut quand même rappeler que ce sont des produits quand même très sucrés, qui ne sont pas forcément très très bons pour la santé, etc. Je pense que c'est pas plus mal. Moi, j'aurais eu tendance à aller squatter au supermarché du coin, d'arriver ma Switch et de la frotter sur tous les, sur tous les cartons pour débloquer les goodies. Donc voilà, c'était ma news. Donc, ça sort aux États-Unis dans les jours qui viennent. Donc, Super Mario Céréales, donc, qui embarque a priori un capteur Amiibo dans la boîte. Voilà.
Bon, on va arrêter là. Enfin, on arrête le jeu vidéo, je pense que...
C'est des perspectives terrifiantes.
Je trouve ça atroce. Non ?
Les Amiibo peuvent avoir plusieurs formes, et là, on en a une illustration flagrante.
Bref, le com des com d'il y a deux semaines, oui, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. On essaye, de tenir le rythme. Parfois, c'est impossible et parfois, on s'adapte. Donc, on reprend donc le com des com d'il y a deux semaines où, avec Erwan Higginen, nous avions fait un peu un voyage dans le temps et nous avions parlé des... des portages qui étaient arrivés sur Switch. Donc, on avait parlé de Skyrim, de L.A. Noir, de Doom notamment, et de Rocket League aussi. Et puis, évidemment, il y a les volontés de portage des auditeurs et des téléspectateurs. Alan San qui dit « Mon top 3 de jeux que j'aimerais voir sur Switch en portage, Persona 5, Dark Souls et Bayonetta 2. En plus, j'adhère complètement à cette liste. Persona 5 surtout parce que ça me permettrait d'y jouer et de le finir, parce que je ne suis pas du tout en mesure de finir ce jeu sur console de salon. Et puis nous avons Red qui parle, lui, il va plus chercher côté indé avec Dropsy, avec Undertale, Dead Cells et Don't Starve. Alors là, pour le coup, on est face à des portages que je dirais presque probables.
Ils sont pas très compliqués
et ça arrive.
Vous en parliez, c'est vrai qu'il y a une manne potentielle monstrueuse de jeux qui ne demandent qu'à arriver sur la Switch. Après, c'est une question, je pense, de deal, d'accord, ouais, plus financier entre Nintendo et les éditeurs. Mais oui, la machine, comme vous l'avez bien expliqué, avec les 3-4 titres dont vous parliez, enfin, c'est vrai qu'elle donne un coup de jeune à des titres qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une liste assez incroyable
du côté des indés, il y a quelque chose d'assez naturel, évidemment, mais ce qui était intéressant, en tout cas il y a 2 semaines, et avec des jeux comme Skyrim, c'est le côté triple A d'il y a quelques années qui sont solides et qui sont vastes et qui sont des grands jeux à plusieurs dizaines d'heures de jeu et tout ça, et ça s'adapte super bien. C'est vrai que voilà, Persona 5 qui n'est pas si vieux que ça, mais j'avais parlé de Red Dead Redemption le premier, qui est absolument compatible en termes de puissance de calcul avec la Switch, ça ferait assez plaisir.
C'est vrai que là, il y a un vrai boulevard pour Nintendo. Entre ça et les Amiibo dans les boîtes de céréales, c'est vrai que c'est assez colossal.
Petite remarque, voilà, sur...
Après, il faut rester, pardon, sur ces rééditions, il faut aussi avoir un prix de vente qui reste réaliste. C'est pas mal aussi de les remettre à jour, d'ajouter des bonus dans les contenus, de les remettre...
Il y aura aussi la question de la place.
Aussi, oui, a priori. Vous en parliez, je crois, sur Alienware, qui a pas mal de téléchargements. Donc ça peut aussi.
Les vendeurs de cartes micro SD sont heureux. Hein, voilà.
Doom aussi, non ? Est-ce que Doom, il y a aussi du téléchargement ou pas ?
Oui, il y a de la mise à jour, mais moins, un peu moins que. Parce que, mais Alienware, c'est limite un peu.
C'est vrai que les 32 gigas embarqués, c'est un peu mesquin. Donc,
c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais fait une remarque sur le gameplay de Skyrim. Hein. Bon, c'était une remarque, mais bon, quand même. Il y a Stonganov qui n'est pas d'accord. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'aimaient pas les combats dans Skyrim. Un bouton pour chaque main, épée plus parade bouclier, double sort ou sort plus épée, bouton d'esquive. Il ne manque grosso modo que le verrouillage des ennemis si on chipote. Je m'en souvenais même pas pour vous dire à quel point c'est dispensable. Skyrim, quel grand jeu. Vivement le 6.
Il passe bien sur les deux, Skyrim, il a à la fois télé et portable. Toi, tu y joues comment?
Je ne joue à la Switch qu'en portable.
D'accord.
Je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça donne sur écran.
C'est intéressant parce que certains titres passent bien à l'écran.
Il paraît que ça passe moyen. Bon, après, c'est vrai aussi, on est habitué à Skyrim sur la grande télé.
La réédition PS4 et compagnie, c'est vrai que...
Voilà. Allez, on va commencer avec un jeu dont on va parler du jeu lui-même. Ne vous inquiétez pas, on va aussi beaucoup parler de ce qui s'est passé autour du jeu. C'est Star Wars Battlefront 2. Sector is clear. Not clear. Battlefront 2, un jeu licence Star Wars, ce n'est déjà jamais anodin en soi. C'est quand même une des licences les plus puissantes, si ce n'est la plus puissante de la pop culture moderne. Un Star Wars Battlefront, ce n'est jamais encore, c'est encore moins anodin. On se rappelle du barouf que le premier avait créé dès son annonce, l'optique d'avoir ce multijoueur format Battlefield, hein, puisque c'est Electronic Arts et DICE qui sont aux manettes. Et puis là, le 2 qui arrive. Après, le premier avait pas forcément déçu. L'absence de jeu solo avait fait beaucoup parler. On était purement multi. Alors que la mythologie de Star Wars, on a envie d'entendre des histoires. On a envie qu'on nous raconte des histoires dans cet univers. Ça avait manqué à beaucoup de joueurs. C'est corrigé. C'est pas ce dont on a parlé à la sortie du jeu. Ça n'a pas été le premier sujet. On parlera du jeu, évidemment, mais il faut qu'on parle...
C'est un briquet, tout ça, en fait.
C'est un briquet. Mais il faut qu'on parle des loot box.
Patrick.
Ah, il le faut. Oui, c'est ce qui a vraiment attiré l'attention. En fait, ça, le lancement donc, du jeu s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu les versions bêta auparavant. Et on a commencé à avoir des grognes de joueurs, des critiques aussi qui avaient eu le jeu en amont, sur donc, ce système de lootbox qui est répandu dans le jeu vidéo. Hein. Ce n'est pas une nouveauté pour Star Wars Battlefront 2, qui permet donc d'acheter des composants. Donc, on achète son jeu 60-70€ et on va aller acheter des boîtes surprises, des pochettes surprises qui vont contenir différents objets. Donc on les paye avec son argent et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça pose de grands problèmes sur le statut de ce que sont ces lootbox. En fait, ça pose un problème de fond. Et tout ça a été attisé, je pense, par la puissance. Tu en parlais de cette licence. Star Wars, c'est la licence populaire, la pop culture. C'est une licence familiale qui touche un public très large, qui véhicule aussi, je pense, des valeurs, une imagerie particulière. Et le fait que ce jeu en particulier, qui était très attendu, qui était vraiment un de ces blockbusters qui était prévu pour la fin d'année, embarque ce système de lootbox. Donc, qui s'apparente, et c'est là où ça a été pointé par les politiques, par plusieurs critiques, par le secteur, qui s'apparente à du jeu d'argent. C'est là où vraiment ça pose une question, c'est qu'on est devant une loterie, un système de loterie, ce qui pose des problèmes de problèmes légaux de proposer du jeu d'argent, donc qui s'adresse plutôt à des majeurs, à des personnes majeures, sur un jeu qui est plutôt grand public. Donc ça, c'était la question de fond.
Juste un détail qui a son importance, les lootbox donne des avantages dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des lootbox cosmétiques comme on peut aller voir dans certains free-to-play ou dans certains jeux payants comme PlayerUnknown's Battleground ou certains jeux de ce type-là.
Là, c'est vraiment c'est de l'achat qui n'entre pas sur la composante de gameplay en elle-même, ouais. Qui reste vraiment pour se la péter auprès de ses potes ou s'amuser à se distinguer. Donc là, c'est vraiment un luxe qu'on se permet de s'acheter, de se faire plaisir sur... Là, on est sur autre chose. On est vraiment sur une composante qui vient gangréner finalement le gameplay et toute la logique de progression dans le jeu.
Là où
et
notamment les Belges, hein, je crois, ce sont, ouais, c'est le gouvernement
les,
belge
les,
qui
les premiers vraiment à monter au
c'est
créneau.
C'est le fait du le hasard, donc, ce que tu disais, qui fait en fait le jeu d'argent avec le hasard, à partir de là, ça devient...
Et ce qui est terrible, c'est que ça fait venir des idées d'addiction. Enfin, on se bat depuis des décennies contre l'idée d'addiction et du jeu vidéo. Ça commence à être écarté, on commence à plus à parler de tout ça. Mm-hmm. Le jeu vidéo, aujourd'hui, il est respecté, on parle de sport, on parle de beaucoup de choses. Et là, on se retrouve avec ce fantôme de l'addiction qui est bien réel, hein, l'addiction au jeu d'argent, qui se retrouve dans un jeu grand public, avec une licence comme ça. Donc évidemment, ça a explosé, ça a fait toute
l'affaire. Parce qu'il faut bien expliquer qu'est-ce qui se passe au moment où un joueur va vouloir s'investir dans le jeu multijoueur. Il va choisir un type de personnage, un type d'action, une classe. Il va bien voir son idéal de matériel, d'environnement. Il me faudrait tel vaisseau, telle arme, telle armure, tel machin. Et évidemment, il y a une rareté des éléments donc dans ces box, et les plus puissants étant les plus rares, les plus légendaires, les épiques, légendaires, je sais même pas si les mots sont les mêmes, mais l'idée est pareille. Donc le joueur va avoir l'espoir pour s'approcher de la perfection de son personnage, pour être le meilleur sur le terrain. Il va avoir l'espoir d'avoir tel ou tel objet qui arrivent de manière totalement aléatoire, et en plus les meilleurs objets étant les plus rares, on va inciter le joueur à payer plusieurs fois, à acheter des dizaines, des centaines de ces box-là pour espérer dégoter l'objet qui lui manque.
Et le jeu
ça, c'est fini. Hein.
Oui, alors ça, oui, on n'a pas précisé que ça a été gelé, effectivement, comme tu dis, c'est important, ça a été gelé par Electronic Arts juste avant la sortie du jeu, en fait, pour pas que ce soit effectif au moment de l'arrivée du jeu dans les boutiques. Donc c'est gelé. En attendant, c'est temporaire. C'est ça a été ce qu'a dit Electronic Arts, c'est qu'on attend de voir ce qui se passe. Je pense qu'il laisse un peu passer le bois médiatique que ça a entraîné. C'est en suspens, ça va sûrement être réactivé. Ils ont annoncé que ce serait modifié, on n'en sait pas plus. Moi, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est que dans les jours qui ont suivi le gel des microtransactions et puis la polémique qui a continué à enfler, parce que d'autres jeux ont été impactés. On a eu des Need for Speed chez Electronic Arts, ça a aussi été réévalué dans son système de micro-paiement, etc. On a eu quelques sorties un peu étranges de Blake Jorgensen, qui est le directeur financier d'Electronic Arts, qui a justifié, en fait, qui a cherché à justifier ce modèle qui avait été choisi. Il a par exemple dit, la réalité c'est qu'il y a différents types de joueurs, certains ont plus d'argent que de temps, et d'autres ont plus de temps que d'argent, il faut savoir créer un équilibre pour eux. Non. Moi, je vois pas le jeu vidéo comme ça. Il faut bien différencier. Moi, j'ai rien contre les DLC, contre le fait d'acheter son jeu et puis d'avoir des extensions qui viennent l'enrichir. Aujourd'hui, ça a bien mûri tout ça. On voit des choses très intéressantes. Je sais pas, moi, je pense à Assassin's Creed. On peut avoir des chapitres additionnels. Je me rappelle du chapitre Jack l'Éventreur qui venait sur Syndicate apporter une narration en plus. Et ça n'empêchait pas de jouer au jeu initial. Si on voulait se contenter du jeu initial, il se suffisait à lui-même. Là, on est sur un autre cas de figure, et le côté justement argent et
ce qui est le pay to win. C'est intéressant cette citation parce que ça montre que la logique qui est connue, celle du free to play. Hein, donc c'est la logique du free to play.
On paye pas son jeu, on joue gratuitement, mais en contrepartie, on a ce système voilà. de.
Et on sait très bien que l'économie du free to play, c'est là où c'est intéressant. L'économie du free to play est quasiment pour son intégralité. Financé par ce qu'on appelle les baleines, les whales. Donc ce sont effectivement les gens dont parle ce directeur financier d'Electronic Arts. Les baleines sont ceux qui vont payer, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que il faut bien voir que dans l'économie du free-to-play, on est sur des chiffres absolument astronomiques de 80-90% des revenus d'un jeu qui sont générés par 5% des joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur une disproportion comme ça, un décalage qui est énorme.
Le postulat n'est pas le même. Tu rentres par un jeu free-to-play, donc tu sais que le business model est alternatif. Tu ne rentres pas par un jeu à 60-70 euros. Enfin, je pense que
il n'y a qu'un financier pour dire à un moment donné pourquoi est-ce que le système du free-to-play, on ne démarrerait pas avec un jeu payant ? Et quelqu'un dit,
sachant que la logique derrière le free-to-play, et c'est là où c'est important, c'est que la logique du free-to-play, c'est cette période où on a accès au jeu dans sa quasi-intégralité, en dehors de ces objets un peu rares, etc. Et on va jouer un certain nombre de temps, et au bout d'un certain nombre de temps, on se dit, j'ai joué 60, 100 heures, j'en sais rien, je peux mettre 10 euros, 15 euros,
Je suis à peine investi.
Il y a une logique qui est un peu pourri quand même, cette logique existe. Dans le cas d'un jeu payant, on n'est pas du tout sur cette logique. Mmh. Et il faut bien voir, et c'est vachement intéressant ce système de baleine, c'est que philosophiquement, ou en tout cas avec du recul, ce qu'on peut se dire, j'en avais parlé dans une chronique un peu de silence l'année dernière, ce qu'on peut se dire, c'est que si on pousse cette logique de baleine au maximum, ça veut dire que les joueurs qui ne jouent pas, qui ne payent pas, ils sont là pour jouer les décors.
C'est-à-dire que c'est fodeur quoi.
Les joueurs qui ne payent pas sont le décor.
Tu fais quoi la journée
pour permettre au jeu d'inciter les baleines à payer. C'est-à-dire que si les joueurs qui ne payent pas ne jouaient pas, les baleines ils payeraient pas. Ils se disent c'est vide, ce jeu est vide. Il y a personne. Je ne peux être plus puissant que personne. Parce que les baleines pourquoi elles payent? Pour être plus puissant.
Oui, il y a une question d'égo.
Je paye pour être plus beau, plus puissant, meilleur que les joueurs qui ne payent pas. S'il n'y a pas de joueurs qui ne payent pas, les baleines n'ont pas d'intérêt à payer.
C'est intéressant ce que tu dis, mais moi je pense que ça peut entraîner le jeu à sa perte. Parce que, alors, parlons du ressenti de joueur. Moi je ne suis pas un gros joueur de FPS, je suis même plutôt mauvais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait tu es vite dégoûté. Tu arrives, tu sais que tu ne vas pas payer. Grosso merdo, parce que c'est vraiment pas ton trip et tout. Tu t'investis, tu rentres dedans. Alors c'est très sympa parce que c'est vraiment le grand spectacle. Mais tu te fais tellement marcher dessus qu'à un moment donné, tu dis tu sais quoi, Battlefront, je vais faire les autres modes. Si j'ai des potes, à un moment, je les rejoindrai et tout. Mais juste comme ça.
On sent que les dés sont pipés. En fait, quand on arrive en multijoueur, on sent qu'il y a quelque chose qui.
Et du coup, je sais pas si c'est vraiment un bon calcul. Sûrement, sinon ils le feraient pas, j'imagine. Mais d'un point de vue de. Moi, ça ne me pousse pas, en tant que joueur, à y revenir, en fait.
Moi, j'irais, juste pour continuer, je pense que le système est vérolé depuis beaucoup plus longtemps que l'apparition de ces lootbox. Mmh. Le système est vérolé à partir du moment où, dans le multi, il y a eu ce système d'XP. On se rappelle de ces Call of Duty, de tout ça, où finalement on avait un avatar qui gagnait en puissance, qui débloquait des armes, etc. Il n'y avait pas à l'époque, ou peu, ça devait exister, mais il y avait peu de transactions, de mini-transactions à l'intérieur du jeu. Mais il y avait ce système XP qu'on voit dans Destiny, qu'on voit dans tout ça, où on devient plus puissant, plus on joue, plus on devient puissant, etc. Qui finalement ruine un peu l'expérience de jeu si je me retrouve en face de quelqu'un qui a plus joué que moi, J'ai aucune chance.
Mais les jeux, en plus,
Et ça, c'est les rôles. On le voit dans le jeu aujourd'hui de PlayerUnknown's Battleground, par exemple, qui, là, lui, est fascinant parce que tous les joueurs arrivent à poil en bas. Donc, que tu aies joué 150 heures, 200, 600, j'en sais rien, t'es au même niveau, t'es à poil, par terre, et c'est à toi de trouver le stuff, etc. Ça ne rend pas le jeu moins intéressant. L'expérience, l'expérience et le joueur devient plus fort par l'expérience et pas par des XP, des choses à la con. Le système de jeu compétitif est vérolé à partir du moment où un XP qui change le rapport de force.
Ouais. Alors, une autre réaction du directeur financier que j'aime bien. En fait, il a dit qu'il voulait pas faire de loot cosmétique dans le jeu pour respecter le canon Star Wars. Le poids de la licence. Ah oui. Il a notamment évoqué, on veut pas voir
Vador en rose.
Exactement, en blanc, en rose, etc. Ouais, mais non. Enfin, c'est pas ça qui justifie l'intégration du loot qu'on a pu voir.
Oui, non, mais c'est...
Puis en plus, on parle de canon, on est quand même sur un jeu qui est un peu un mash-up où tous les personnages qui se rencontrent ne sont pas censés se rencontrer forcément. Enfin, voilà, il y a des...
Non, puis en plus, je trouve ça complètement idiot. Enfin, si t'as envie de jouer avec Dark Vador rose...
À la limite, pourquoi pas
C'est pas un problème, on ne parle pas de... Enfin, je sais pas.
Ouais. Donc,
surtout, c'est complètement idiot de laisser parler un directeur financier. Le mec, tu lui dis non, tu parles pas en public, tu vas encore dire de la merde. Et ben voilà, il l'a fait. Voilà, tu ne
donc du
pas
coup,
parler.
Pour l'instant, c'est gelé. On va voir comment ça évolue, mais ça pose pas mal de questions.
Et après, honnêtement, moi, je m'en foutais complètement de ces histoires de lootbox. Pour y avoir joué, je ne me suis pas posé la question. Je suis mauvais, donc ça ne change pas grand-chose.
Alors, je suis d'accord. Après, pour moi, le problème, c'est que c'est quand même très intrusif. On va parler de Call of Duty après, c'est un autre cas de figure. On n'est pas du tout sur le même principe, mais... j'ai joué en multi, toutes les 5 minutes, on revient sur achat possible de biens dans le jeu, etc. Enfin, c'est vraiment intrusif, même au sein de l'interface même des jeux. C'est quelque chose qui est très mis en avant. Enfin voilà, c'est quand même... On s'en passait, quoi. Ouais, c'est omniprésent dans le jeu, en fait. C'est quelque chose qu'on nous rappelle souvent, il faut mettre de l'argent. Enfin, c'est pas le but.
Bon, alors ce jeu, Star Wars Battlefront, malgré tout, on l'a lancé. Malgré tout, parce qu'il faut en parler,
Star Wars, en plus,
Patrick, du scénario.
On attend. Moi, c'est ce que j'attendais. En fait, il s'est présenté comme ça, ce Battlefront, c'était en dehors de cette question de lootbox. Il y avait dans le message de Electronic Arts, de DICE, c'était de dire, on a pris en compte les retours des joueurs sur le premier Battlefront, notamment ce qu'on avait tous ressenti, une vraie frustration, comme tu le disais bien tout à l'heure. Star Wars, c'est du narratif, on veut de l'histoire. Surtout que le jeu vidéo, historiquement, dans ce monde transmédia qu'est Star Wars, il a toujours eu son mot à dire, un vrai mot à dire, en construisant des vraies courbes narratives supplémentaires que le jeu vidéo pouvait permettre de créer, voilà, etc. Donc il y avait vraiment une place. Et là, donc, on a cette fameuse campagne solo qui est intégrée donc, au sein de Battlefront 2. Alors moi, j'aime bien l'idée, parce que pour moi, Star Wars, je me suis jeté dessus de suite, parce que c'était ça que je voulais voir, plus que du multijoueur.
C'était vraiment l'argument.
C'était l'argument. Et c'est vrai que moi, c'est ce que...
Par contre, quand on lance le jeu, ils ne le mettent pas en avant. Hein. Ils ne le mettent pas du tout en avant. Hein. Si on ne sait pas qu'il y a un mode solo, on le voit pas.
Alors c'est dommage. Moi, je suis vraiment partagé. Parce que d'un côté, j'adore l'idée. Alors en deux mots, donc, on va suivre donc, dans cette campagne Eden Versio, donc, qui est la capitaine d'une unité d'élite de l'Empire. Et là, moi, ce que j'aimais bien sur le début, en tout cas du jeu, c'est qu'on se retrouve donc, dans ce groupe d'élite qui assiste au retour du Jedi, donc à l'étoile noire qui pète dans le ciel. Et cette question, c'est on fait quoi maintenant, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant parce que le principe donc, de cette arc narratif dans le jeu, c'était un peu de compléter ce qui se passait entre Retour du Jedi, donc le 6, et le 7, le premier Ordre qui arrive, et puis de poser cette question, qu'est-ce que devient l'Empire après la mort de l'Empereur, etc.
Et notamment, il y avait ce truc qu'on voit déjà dans le film Rogue One, et que je trouve vraiment pour une fois intéressant, qui est de dire, tiens, du point de vue des impériaux, en fait, les rebelles sont des terroristes.
Ça pose la question. Ça, c'est plutôt bien fait. Pendant la campagne, on avance, c'est vrai qu'on shoot du rebelle en se disant, mais ils sont bizarres. Ça dure un temps. C'est vrai qu'il y a vraiment les premiers moments. Il y a un plan où on voit donc les trois qui regardent donc l'étoile noire qui pète. C'est vraiment bien foutu, je trouve, en termes scénaristiques. Et puis ça s'étiole. Je trouve que malheureusement ça tient pas. Ça dure pas très longtemps. C'est quoi, 5-6 heures grosso modo la campagne. je trouve que ça tient pas. Et surtout, je trouve que la proposition de gameplay, elle est trop légère. C'est le vrai problème, c'est que finalement, c'est le fait même de proposer une campagne solo dans Battlefront, c'est peut-être pas une solution à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est de la campagne narrative, comme tu disais. Et je pense que ça ne fonctionne pas. Pour ça, c'est que le moteur de Battlefront, il est fait pour du multijoueur. Et finalement, on traverse une campagne de tir sur pigeon. En fait, il y a très peu de modularité dans le gameplay. Il y a des passages de pilotage de véhicules, mais ça reste très léger. Et surtout, le propos s'étiole. Autant ça part très bien au début, et puis je trouve qu'il y a cette volonté de d'incarner, après je vais pas trop spoiler, mais différents personnages, qui fait que finalement on perd le propos initial, et il y a ces doutes qui apparaissent donc chez l'héroïne, mais bon, ça apporte pas énormément de choses.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi, et je trouve que c'est pas du tout le... En fait, tu te dis, mais c'est pas leur cœur de métier, ils savent pas faire. Pourquoi ils sont allés là-dedans? Parce que c'est, tu vois, it's a trap. Il fallait pas y aller, quoi.
Il y a beaucoup de trap autour de Star Wars en ce moment.
Et techniquement, moi, vraiment, il y a des moments où, sur les animations de personnages, c'est vraiment moche, quoi. C'est raté. Han Solo qui se met accroupi, ou tu te mets en pause. Enfin, t'as l'impression d'avoir un crabe. C'est l'enfer, quoi. Enfin, c'est risible et c'est dommage parce que ça ne mérite pas ça, quoi, simplement.
Moi, il y a deux, trois trucs que j'ai bien aimés. Il y a un plan séquence vers la fin de la campagne solo où, en fait, on alterne le tir au sol et le pilotage de vaisseau. C'est une séquence qui dure peut-être une demi-heure, peut-être 20 minutes, qui alterne comme ça en dynamique, une espèce de plan séquence que j'ai trouvé pas mal foutu avec l'héroïne, où on passe comme ça d'une échelle à l'autre. Ça, c'est plutôt bien foutu. Puis il y a des moments vraiment gênants. Je ne sais pas si je peux le dire, on incarne un personnage mythique de la trilogie, quand même, avec son sabre laser. Et c'est vraiment gênant parce qu'en fait, on tue des pendant 20 minutes et ça sert pas à grand chose. Et non, mais vraiment, et là tu te dis.
Des insectes.
Non, enfin, des espèces d'insectes. Ouais. Voilà, on se dit, mais voilà, ça, voilà quoi, non. Donc, pas avec lui, pas avec ce personnage-là, on veut pas ça avec lui.
En plus, c'est très étrange.
Cette séquence-là, tu te dis non, pas avec ce mec-là, on veut pas ça, quoi, on veut autre chose. Il a des capacités, des trucs qui font que. Donc voilà, et moi encore une fois, je me rappelle, je sais que je ressasse toujours le passé, on va me dire, mais je repense au jeu LucasArts il y a 20 ans, je repense à X-Wing, je repense à Jedi Knight, le Dark Forces, où on avait déjà les prémices de Rogue One au niveau du scénario. Waouh, on a quand même connu une époque. On a quand même eu un âge d'or des jeux Star Wars où ça apportait des morceaux de scénario en plus et où on ressentait vraiment, on ressentait la force, quelque chose.
Un titre comme Star Wars Online, qui avait quand même si c'était un MMO, ultra linéaire, narratif, en tout cas, pendant des dizaines d'heures, on pouvait se lancer. Alors, c'était un peu maladroit et tout ça, mais il y avait un vrai univers,
Star Wars.
C'est vrai que c'est une licence qui génère beaucoup de passion et tout. Donc là, on a l'impression vraiment de taper peut-être dessus. Et c'est vrai que c'est quand même du très grand spectacle. L'ambiance sonore est folle.
Alors, graphiquement,
je trouve que tu retrouves quand même toujours beaucoup les mêmes objets, et puis c'est encore l'histoire campagne, là, c'est vraiment un couloir. Dès que tu essayes de sortir un peu du couloir, t'as un message qui dit non, tu reviens, tu sors pas, tu vas pas là.
Moi, finalement, je trouve que les meilleurs passages, c'est les vaisseaux spatiaux, en fait, c'est les combats spatiaux en véhicule qui sont vraiment pas mal. Je trouve vraiment c'est dynamique. Finalement, on se décolle un peu de ce côté, comme tu dis, dans des couloirs où là, on s'amuse un peu plus. Mais encore une fois, on n'est pas.
Il fallait pas le faire. C'est sur le multi, il fallait.
On veut un Jedi Knight, on veut un Dark. Enfin voilà, on veut du X-Wing. Je pense que ça se prête plus à un jeu.
On va parler tout à l'heure, là, dans les minutes qui viennent, d'un jeu qui nous avait habitué à merder le solo, à faire n'importe quoi en solo. Et là, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une explication, qui ont décidé de faire un solo. Je veux dire, à partir d'un jeu qui est basé, qui fait même son modèle économique sur le multi, il est possible, si on y investit suffisamment d'énergie, suffisamment de volonté, suffisamment de créativité ludique, il est possible de proposer une expérience solo digne de ce nom. On le voit. Là, c'est assez marrant parce qu'on a un peu les deux concurrents FPS de la fin d'année qui sont l'un face à l'autre sur deux thématiques tellement éloignées. Mais il est possible, on va en parler, mais de faire un jeu solo, mais c'est une volonté. Après, c'est, bah, il faut le vouloir.
La licence Star Wars, elle est lourde, je pense, à gérer. C'est pas quelque chose de facile à manipuler pour le jeu vidéo. Et quelque part, bah, et moi je me rends compte, par exemple, dans les séquences de tir, c'est quand même le cœur du jeu, je trouve que ça manque de pêche. Je trouve que c'est un peu mou. Alors ça, c'est peut-être aussi l'univers Star Wars. Hein. Les pistolets laser, etc., font que c'est peut-être moins impressionnant que d'un jeu de tir, comme on va en parler un petit peu après.
C'est très arcade.
C'est un peu mou. Je trouve que les fights manquent un peu de pêche. Et moi, ce qui m'a vraiment embêté, moi je trouve graphiquement il tape, je trouve que graphiquement il a un vrai cachet, on reconnaît vraiment l'univers, il envoie même au niveau des sonorités. Ouais. Moi ce qui m'a plus posé problème c'est les murs invisibles, on est quand même sur un jeu, on va se cacher pas mal, on est pas mal sur du... on se met derrière quelque chose, et en fait on tire des fois sur un mur invisible, où je trouve que les hitbox sur les ennemis sont pas toujours très précis, des fois c'est un peu flottant, et ça m'a plus posé problème finalement qu'autre chose, c'est vraiment le... Ce côté un peu flottant, et les murs invisibles, tu te caches derrière, une boîte, et tu tires sur le côté, ça tire dans le... Et ça, c'est vraiment gênant, quand tu vises un ennemi au loin, je sais pas si vous l'avez rencontré en jouant, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est assez... de devoir se déplacer alors qu'on est dans le vide, c'est embêtant, quoi.
Oui, c'est gênant. Vous avez une expérience multi-convaincante ou pas? Moi non, hein.
Moi je m'amuse plus sur les modes arcade, sur les modes, les challenges qu'on peut faire comme ça, pour faire évoluer son personnage, on n'a pas le choix de toute façon.
Après, je pense que quand le faire avec des gens que tu connais, peut-être microcast et tout, c'est autre chose. Et que c'est peut-être très jouissif et tout. Après, moi, c'est pas du tout mon cœur de jeu, donc j'y vais, je m'amuse, mais tu te fais tellement marcher dessus.
C'est vrai qu'il y a un niveau, on se fait vite allumer, quoi.
Tu dis bon.
Alors, moi, bizarrement, c'est toujours bête dans une émission comme celle-ci de balancer des choses sans avoir la capacité de les analyser plus loin. Mais je sais que dans Star Wars Battlefront, le premier, je sais pas, j'avais le temps de découvrir les maps, de me balader, de mourir, de tuer, de machin. Là, j'ai juste après, je sais pas, soit j'ai vieilli, hein, c'était 2015, 2017, deux ans, l'arthrite, beaucoup, tout ça, mais je comprends pas,
Ils ont fait des trucs intéressants, par exemple dans le premier, justement, il y avait des, si tu voulais incarner un super-héros, un héros de la... La saga, une figure emblématique de la saga, il fallait récupérer des jetons. Donc quand tu avais repéré un emplacement, tu pouvais camper et attendre pour pouvoir avoir la chance d'être...
Il revenait toujours au même endroit, en fait.
Voilà, il revenait toujours au même endroit. Ou pour pouvoir prendre en main un véhicule. Ça, ils l'ont enlevé et ils ont mis un système qui est plutôt intéressant et qui pourrait être vertueux, c'est de dire, en fait, quand tu te bats en ligne... Tu vas accumuler des points en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu joues bien, si tu arrives à tuer des ennemis et tout, tu marques des points. Et à partir d'un certain quota de points, tu peux débloquer, accéder à un héros, un truc comme ça. C'est plutôt intéressant. Tu te dis, chouette ça. Donc je vais m'investir un peu. Sauf que, si t'es pas bon, et qu'en face de toi, tu as des gens qui ont looté beaucoup, qui ont machin, et c'est plus dur de marquer des points. Et du coup, c'est un cercle qui du coup, n'est plus du tout vertueux. Et c'est on sent que la mécanique sur le papier peut-être qu'elle était chouette et que dans la pratique cet ensemble là devient un petit peu indigeste et au final t'en ressors quoi, tu dis c'est pas grave, j'ai une proposition de jeu qui est tellement vaste aujourd'hui que peut-être que c'est pas pour moi.
C'est vrai que si tu retires l'habillage Star Wars auquel on est tous attachés parce que ça fait tous partie de notre culture, donc c'est aussi pour ça qu'on se plonge dans le jeu et qu'on essaie de creuser, qu'est-ce qui reste? Moi, j'ai déjà moi, je ne cache pas que j'ai des heures de jeu dessus, hein, entre les modes arcade que j'ai pas mal creusé. Moi, j'aime les shoots spatiaux, je trouve qu'ils sont pas mal. Le solo que j'ai quand même fait en quelques heures. Je ne peux pas dire que j'ai jeté le jeu à la poubelle. Non, j'ai quand même quelques heures de jeu, mine de rien, qui font que... quand on est attaché à l'univers, on a de quoi creuser. Après, il faut composer avec ce multi qui n'est pas forcément bien équilibré, et encore un jeu qui est presque un work in progress. Quand on voit aujourd'hui que les microtransactions sont gelées, qu'est-ce qu'il va devenir dans les mois qui viennent? Ça reste... Alors, je crois qu'il avait été annoncé que les DLC seraient gratuits. C'était ça aussi la promesse sur celui-ci. Donc, du solo, et puis les DLC qui étaient payants sur le premier seraient cette fois gratuits, a priori. Donc, on verra comment tout ça va s'orchestrer. Enfin, peut-être qu'on en reparle dans quelques mois, voir comment le jeu a aussi évolué dans 6 mois.
Une mise à jour avec la sortie du film.
Ce qu'ils avaient fait aussi sur
Rogue One. Il y aura un arc de campagne supplémentaire.
Donc scénaristique, a priori, peut-être. Alors.
Scénaristique, donc ce serait intéressant. Et ce ne serait pas forcément un mauvais calcul de dire, de rentrer en synergie entre les différents médias. C'est-à-dire que le cinéma pourrait être complémentaire du jeu vidéo, etc. etc. Comme on voit avec The Walking Dead, par exemple. C'est intéressant.
Mais s'il y a une licence qui peut le faire, c'est Star Wars. qui peut vraiment avoir une logique comme ça de raconter l'histoire sur différents médias.
L'univers est tellement vaste.
C'est fait pour. Enfin, le jeu, et il l'a fait, le jeu vidéo. Encore une fois, il y a 20 ans, il l'a fait avec brio, donc il peut le faire. Voilà, après, il faut les jeux qui le permettent. Et moi, je suis très inquiet parce qu'on n'a pas d'annonce sur la VR. Enfin, moi, j'avais adoré le segment VR du premier. Mine de rien, c'était un segment gratuit. Et pour moi, qui était vraiment hyper marquant parce qu'on était dans le X-Wing en VR. Enfin, moi, ça m'avait foutu une raclée, quoi. Là, je crois qu'il n'y a rien du tout en VR.
Moi, je ne sais pas si tu avais eu ça, mais moi, j'avais vraiment le truc, tu sais, de sale gosse qui était génial avec ce passage en VR. C'est que tu pouvais toucher sur les.
Mais oui,
les boutons.
Mais et c'était un rêve de, gamin. Moi, enfin, tu vivais
les ailerons, les trucs, t'appuyais.
Pareil, j'ai passé une heure à appuyer sur tous les boutons. C'est ça Star Wars, quelque part, c'est ce qu'on attend aussi. Peut-être qu'un jour on aura un X-Wing en VR, moi je rêve de ça.
Quand avoir à la maison, dans le garage.
Ou un Jedi Knight comme ça avec des interactions, ça pourrait vraiment être terrible.
Bah, peut-être qu'on viendra à Silence on Joue en X-Wing.
Non, peut-être.
Okay, on verra.
Bon, allez, on en a fini avec ce Star Wars Battlefront 2. On en reparlera peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Dans 6 mois. Alors maintenant, un peu événement hein, au sein de Silence on Joue, parce que s'il y a bien une licence qu'on a sous-traitée ces dernières années, à juste titre ou pas, hein, d'ailleurs, c'était plus des choix personnels, des esquives un peu que nous faisions hein, vis-à-vis de ça. Peut-être que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était peut-être lors de la première saison hein, pour Call of Duty, le Call of Duty 4 Modern Warfare. Hein, qui est
je ne sais plus, franchement, je veux dire une bêtise.
Je sais qu'une fois, on a critiqué le jeu sans y avoir joué, ce qui avait été moyennement apprécié par nos auditeurs. Ça avait été un exercice de style. Et voilà.
D'accord.
Donc on se rappelle, hein, voilà, Infinity Ward, Call of Duty, hein, qui est une vaste histoire, Infinity Ward, qui a périclité, hein, avec les créateurs qui sont partis. De l'autre côté, Treyarch, Sledgehammer Games, hein, donc dernièrement. Voilà, Call of Duty depuis. Depuis les origines, parce que Call of Duty est un jeu de Seconde Guerre mondiale qui a donc été en Modern Warfare. C'est là où il a explosé. Non, il s'est pas perdu, il s'est trouvé parce que c'est là où il a trouvé ses joueurs. Call of Duty, c'était presque le premier. Pas le premier, mais c'était c'est lui qui a marqué l'ère des blockbusters. 2007, Call of Duty 4, c'est l'ère des c'est le lancement de l'ère des blockbusters du jeu vidéo. C'est un peu le dent de la mer du jeu vidéo.
Oula.
Non, pardon.
On touche pas aux dents de la mer. On avait dit jamais les dents de la mer, on n'y touche pas.
mais ça changeait quelque chose. Après, il y avait eu quand même l'année suivante, hein, le World at
War. Pas tout l'historique là.
Le World at War, Call of Duty World at War, qui revenait un peu, qui avait retourné un peu dans la Seconde Guerre mondiale, mais après, hop, on arrête.
Ça partait d'une bonne idée, c'était un peu de casser le côté routinier de la guerre, on va dire, historique, et puis d'aller vers des justement moderniser. Le problème, c'est que je pense qu'ils sont restés trop longtemps sur cette guerre moderne, ils l'ont trop essoré, et puis bon, ça
et puis après, on a eu Black Ops, on a eu Modern Warfare 3, on a eu Black Ops 2, Ghost, etc.
C'était pas forcément très...
Et donc, on revient aux sources, c'est très marketé, très annoncé par Activision, Call of Duty revient aux sources, revient à la Deuxième Guerre mondiale, avec Call of Duty World War II.
Très bien, les gars. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot.
Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne.
Bon, avec moi.
Nous pensions être prêts pour la guerre. Mais rien ne pouvait nous préparer.
Call of Duty World War II, donc retour aux sources, retour à cette Deuxième Guerre mondiale qui a été le terrain du premier Call of Duty à l'époque qui suivait Medal of Honor,
c'est
la réponse à Medal of Honor, et qu'on revient en plus. Le jeu se lance, alors on va parler du solo d'abord, mais le jeu se lance sur cette scène qui a marqué et le cinéma et le jeu vidéo, et l'histoire par ailleurs, mais bon, ça c'est évidemment, mais qui avait marqué Medal of Honor, hein, le tout premier, c'était le début du tout premier Medal of Honor, le débarquement allié sur les plages de Normandie, et donc là, voilà, on n'y coupe pas, on démarre comme ça, et on démarre d'une manière assez prenante, parce qu'on est dedans, Mathias.
Complètement. Moi, vraiment, ça a été une claque, je reconnais. C'est assez fort. Ils ont fait des choses très intelligentes, notamment sans spoiler la fin. J'ai écrasé ma petite larme. Je ne l'ai pas vu venir, ce truc-là. Et alors que c'est quand même un jeu de guerre, c'est Call of, ça génère, ça brasse. On a l'impression que c'est un bulldozer, un truc. Eh bien, pas du tout. Sur l'écriture, c'est assez fin. Et plutôt très intelligent. Et vraiment, sur la campagne, chapeau bas, honnêtement. Après, ça reste couloir, etc. On n'en sort pas. Tu peux être bloqué par un banc, par exemple, dans une pièce, parce que, voilà, bon, c'est Call of, quoi. Mais à partir de là, on admet. Il y a un truc qui est hyper surprenant, d'infiltration pure et dure, qui est juste génial. C'est super bien rythmé. Et ça, c'est juste le solo, hein. Je parle pas du multi et tout. Et la réalisation, elle est vraiment excellente. Enfin, c'est beau, c'est très très bien joué. J'ai joué en VF. Et là, encore une fois, les voix françaises sont incroyables. C'est juste, c'est vraiment... Alors, pas tout, mais les personnages principaux et tout, c'est vraiment... c'est classe, quoi. Et j'ai continué sur les VF parce que vraiment ça m'a. Et à la fin, ça m'a vraiment ému.
Toujours tester les VF.
Ouais, ouais. Et je suis passé en VO et franchement, ça n'a pas. C'était pas ni mieux, ni moins bien, ni
ouais,
machin.
C'est bien travaillé.
Voilà,
ouais.
C'est et ambiance sonore, enfin voilà. Pour moi, grosse claque.
Patrick.
Ouais, alors c'est un peu une tendance de fond, hein, le retour aux sources. On avait eu Battlefield 1 l'année dernière. Alors je pense pas que ce soit on peut pas parler de réponse parce qu'on développe pas un jeu en un an. Non, puis je pense que c'est plus un phénomène de. On avait un peu essoré les guerres modernes et je crois que ça avait fatigué tout le monde. Et finalement, revenir à quelque chose de plus physique. Et là, moi, je l'ai senti parce que je faisais Battlefront 2 et celui-ci en même temps. Et la différence de ressenti. Je parlais tout à l'heure de Battlefront 2 où on est sur du tir laser un petit peu boum boum. Et là, je trouve que le Call of Duty, on a un ressenti des armes, quelque chose de presque de physique. Quand on tient la manette, on s'agrippe à la manette et on ressent vraiment quelque chose de physique. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant pour ça. Et alors, c'est marrant, moi, j'ai eu l'impression de rejouer, mais dans les conditions actuelles, avec une réalisation, tu disais, graphique, c'est très propre. C'est
sonore,
très... J'avais un peu une sensation de déjà joué, déjà vécu, parce que paradoxalement, enfin, en 2017, on a un peu la pression. C'est un peu présomptueux ce que je veux dire d'avoir vécu cette scène, non, parce qu'on n'y était pas, et Dieu merci, mais on l'a vu au cinéma, on l'a vu en jeu vidéo, on a un peu l'impression de la revivre encore aujourd'hui. Mais effectivement, c'est bien ficelé, c'est bien fichu. Je trouve que c'est la force de cette campagne solo, c'est que elle ne révolutionne pas finalement le Call of Duty, parce qu'on reste sur les. On a les forces américaines qui sont avec. Il y a le côté très. Très le message Call of Duty qu'on connaît bien, qu'on aime ou pas. C'est toujours là. Ça ne cherche pas à révolutionner là, ça, mais ça, la formule est suivie, mais ça le fait bien à tous les niveaux. C'est propre, c'est graphiquement, c'est impressionnant. Les sensations, comme je disais, d'armes sont là. Je trouve qu'il y a un bon level design. Tu parlais parfois des petites anicroches qu'on peut avoir dans les niveaux. Mais globalement, je trouve que les niveaux sont assez intelligemment pensés. Ils font moins couloir que ce qu'on a pu connaître à une époque. Et encore une fois, il y a ce feeling de l'énergie des armes qui est importante. Et puis la gestion de l'énergie, que j'ai trouvé que c'était aussi un côté roots, où on n'a pas d'énergie qui remonte toute seule. Il faut gérer ces packs de d'énergie qu'on actionne un peu à l'ancienne, un peu à la Duke Nukem. Enfin, ça va un peu old school, mais il faut gérer aussi cette partie-là. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs de FPS d'il y a une quinzaine d'années, mais du bon côté. C'est-à-dire que j'ai pris plaisir à. J'ai trouvé que la campagne solo était vraiment, vraiment. Je l'ai traversée avec plaisir, vraiment. J'ai trouvé qu'elle était prenante et avec des persos auxquels on s'attache.
Et ça, c'est une petite dizaine d'heures.
Ouais, il y a des moments un peu plus durs que d'autres. Il y a vraiment des moments où moi j'ai buté sur certains niveaux où vraiment il a fallu que je fasse gaffe, comme tu dis, les séquences d'infiltration ou d'autres, où il faut vraiment commencer à dire bon, bah, il faut que je soigne mon gameplay, quoi. Je suis pas là en mode lance-roquette et il faut y aller. Et ça, c'est bien vu. Je trouve que ça apporte une nuance sur la durée de la campagne qui est vraiment intéressante. Et encore une fois, il y a des personnages. Le pote du héros, on s'attache, et ça c'est important quand on aborde ce sujet qui est quand même, comme tu disais, la fin, il y a vraiment des points très précis qui sont abordés, mais c'est important de montrer le côté humain
Et là où c'est intelligent, et ce que tu disais par rapport au kit de survie, mais c'est valable aussi pour les munitions, t'as un officier qui peut te mettre en surbrillance les ennemis, etc., c'est que le scénario donc s'attache à suivre un soldat, mais dans une escouade particulière, avec trois ou quatre personnages emblématiques. Et justement, le gameplay vient en réponse de ça, et tu t'adresses à ces personnages-là pour avoir justement un kit de survie supplémentaire que tu n'aurais pas ramassé, etc. Ouais. Il y a des échanges. Et alors, en fait, c'est comme un tour de magie. C'est comme les gens qui croient à la magie ou pas. Tu as ceux qui sont dans la salle, qui ont envie d'être emmenés et d'y croire. Et ceux-là, ils vont passer une soirée de ouf. Et tu vas avoir ceux qui vont être là, les bras croisés, qui vont dire « moi, j'y crois pas, c'est de la merde ». Et qui vont être tellement sur la défensive qu'ils ne vont pas du tout adhérer. Et ce Call of, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu pars et que tu cherches les problèmes techniques, tu vas les trouver.
Ouais, bien sûr,
le côté couloir, tu vas les trouver. Si tu ne fais pas les... tout le monde te parle autour de toi. Soit tu te laisses entraîner par cette mise en scène, et quand on te dit « ouais, il faut aller sur la droite, il faut faire ça, machin », tu suis le mouvement et tu vis un truc assez fort, quoi. Soit tu dis non, pourquoi j'irai là-bas, je m'en fous, moi je vais aller à gauche. Et du coup, tu vois les scripts. Effectivement, les vagues d'ennemis se sont pas déclenchées.
Tu as tendance à refaire plusieurs. Quand les niveaux deviennent difficiles, tu les refais. Et finalement, tu joues avec les scripts, tu apprends à jouer avec. Mais ça, c'est la formule, et quelque part.
Tu vois, là, tout d'un coup, tu comprends, tu vois l'arrière, vois ce que je veux dire. Et ça marche moins bien. Mais n'empêche que si tu te prêtes au jeu.
Ce que je trouve intéressant, d'une part, c'est de revenir sur une campagne solo un peu ambitieuse. On en parlait tout à l'heure.
C'est pas qu'un accessoire.
Ah oui, puis c'est pas on prend le moteur du multi et puis on l'utilise.
On met deux, trois
boîtes. Il y a vraiment. On sent que c'est travaillé. On est à la limite du rail shooter des fois. Ouais, quand même.
Pas autant que j'ai pu le connaître sur certains.
Ça me fait penser, c'est ce côté toujours très cinématographique avec des animations spécifiques à chaque fois, des chars qui avancent, les avions qui passent, le son, t'en as parlé, mais l'audio est absolument incroyable. Au casque, c'est un peu troublant quand même d'avoir autant d'impact, de choses comme ça qui sont dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est cette promesse qui est remplie. Tu parlais de il faut rentrer, il faut vouloir cette promesse, il faut vouloir y jouer. Et à partir
moi j'y suis quand même allé à reculons, hein, très franchement, Call of Duty, l'explication marketing, oui, on revient aux sources, j'y croyais franchement pas. Et si on m'avait dit que je prendrais plus mon pied sur Call of que sur le solo Battlefront, j'aurais pas cru.
Oui.
Et le fait est que j'ai commencé à jouer et que le jeu m'a pris, en fait, alors que j'étais plutôt. J'y croyais pas trop. Et en fait, non. Il se passe un truc.
Moi j'ai été très impressionné par la mise en scène, et c'est en fait, moi bizarrement, comment dire, je crois que c'est la mise en scène qui m'a tenu. Qui m'a fait, en fait, un peu comme certains jeux il y a longtemps où c'était les cinématiques, où on avait envie de voir la cinématique suivante, et donc finalement le gameplay était une sorte de... le gameplay c'était une sorte d'épreuve pour voir la cinématique suivante. Et ce Call of Duty, ce mode solo, pour moi, c'était un peu ça. C'était l'ambiance, le côté spectaculaire est tellement impressionnant que... pour moi, les phases de gameplay étaient plus une tannée à subir pour voir, pour apprécier l'église qui s'écroule, les avions,
la séquence de l'église c'est bien fichu.
Des moments hyper forts visuels, évidemment, avec le moteur du jeu. Hein, on n'est plus à l'époque des cinématiques.
Il y a des vrais hitbox par rapport à les hitbox sont plus précis. On peut difficilement les comparer, parce que Battlefront, on est sur du multi avant tout, donc c'est. C'est pas les mêmes.
Ouais, mais Call of Duty, c'est censé être on est sur le même terrain quand même.
Je pense qu'ils sont pas construits quand même.
Non, mais justement, moi je trouve que, n'étant pas joueur de multi, tu vois, pas pro, mais c'est pas ma cam, quoi, en sortant de Call of, j'ai fait la campagne, je suis content en fait. Tu dis, ça y est, moi après je vais jouer au multi, j'ai joué au multi, il y a le mode zombie en plus. Non mais tu vois, tu dis.
Il y a beaucoup de contenu. C'est vrai que t'en as pour ton argent, clairement, t'as vraiment beaucoup de choses, je trouve, dans le Call of.
C'est ça.
En termes de mode de jeu,
Je me sens pas flouté, tu vois ce que je veux dire. Tu dis, moi peut-être je suis plus campagne et choses comme ça, sur la narration, et ça marche, et c'est vraiment fini et tout. Alors. Une petite frustration sur le Battlefront, tu vois, que j'ai pas eu là.
Non,
clairement. Après, les mecs, ils se sont lâchés. Il y a certains passages qui sont limite Uncharted, où ça vole tellement dans tous les sens, notamment un passage avec un train, tu vois, t'as les wagons, les trucs. À un moment, tu dis, les mecs.
Il y a une variation. Hollywood, ça varie, les décors varient, les impressions varient et tout ça.
C'est
là où je disais de rail shooter, c'est. on rentre dans un tunnel spectaculaire et on ressort au bout de 8 heures. Il n'y a pas eu de temps mort ou très peu. Il y a une variation de situation, de gameplay. Mmh. On a l'impression qu'il y a une sorte de règle du quart d'heure. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. On a l'impression, voilà, un quart d'heure, une séquence de jeu, et on passe à la suivante. Et la suivante n'a rien à voir avec la précédente. Il va y avoir de l'aviation, de la voiture, du snipe, de machin. On est emmené comme ça, tout le temps vers l'avant. C'est moi, c'est le seul reproche que je fais, voilà, quand j'ai dit que j'attendais un peu le spectacle suivant, c'est... En plus, on est souvent en escouade, et donc on a des fois pas l'impression de... On a l'impression qu'on n'est pas important. On a l'impression que finalement on va tuer un Allemand ou deux ou trois ou quatre, mais finalement l'escouade va faire le reste.
L'échelle vue.
Mais oui, mais du coup on a l'impression d'être emporté par la vague de son escouade, alors sauf certains passages où on est important et où le jeu s'arrête ou si on perd et ce genre de choses.
Enfin, on a notre supérieur qui nous parle mal. la blazaille. Enfin,
on n'a pas l'impression d'avoir un. J'ai rarement l'impression d'avoir un impact sur le jeu en tant que joueur, en fait.
Oui, le fait de revenir justement donc à une période historique réelle, je trouve qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus concret, moi qui m'a plus touché que les guerres futuristes qu'on a vues l'année dernière. Moi, où je décrochais très vite parce que ça m'intéressait pas. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas de.
Le traitement en plus historique de la guerre, il est vraiment intelligemment fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre l'armée allemande et les nazis.
Ça, c'est important.
L'évocation des camps de concentration, alors c'est le truc qui m'a le plus sidéré. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. C'est parfait. On est sur la bonne ligne. C'est pas larmoyant, c'est intelligent. Enfin, tout est fait. Dans l'escouade, il y a un mec qui veut être. Ça m'a fait penser à Full Metal Jacket, qui veut être reporter, qui prend des photos. Enfin, il y a plein de choses comme ça où alors évidemment, c'est pas historique dans le sens on va pas l'étudier à l'école, tu vois,
mais il y a un rôle peut-être, passer quelques petites choses.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un Call of Duty il fallait qu'on parle de celui-là en tout cas. Call of Duty World War II. Deux mots du multi.
Ouais, le multi, il y a le mode zombie qui est rigolo. Qui est complètement. Autant la campagne solo est plutôt sérieuse et réaliste entre guillemets. Là, le mode zombie, c'est l'opposé.
Le nazi zombie. Voilà.
Alors, ils ont une modélisation de ouf. Ouais. Il y a David Tennant, je sais pas pourquoi. Ok, on y va.
Il y a du pognon, Call of Duty, il y a du pognon.
C'est complètement décérébré, mais ça marche bien, c'est jouissif, par salle, etc., des zombies par horde, et ça marche bien. Encore une fois, ça étoffe un contenu qui est déjà important.
Et puis, le multi, on est sur du multi Call of Duty classique. Alors, ceux qui aiment, aimeront, ceux qui n'aimeront pas. En résumé, c'est complètement con ce que je viens de dire, je le sais, mais c'est difficile de dire plus. C'est-à-dire qu'on est dans ce mode... ultra hystérique mourir. Alors, le but du jeu étant de mourir un peu moins que son nombre de kills. Voilà. Tué un peu plus que deux fois qu'on est mort, on peut dire qu'on n'est pas trop mauvais. Moi, par exemple, c'est totalement déséquilibré. Moi, je suis plutôt à un kill toutes les trois morts. Donc, je suis complètement à la rue. Mais c'est hystérique, c'est très rapide. Moi, ça ne m'intéresse pas des masses, mais c'est rigolo. Quoi.
Après, ils ont fait leur hub social qui est pas mal, je trouve. C'est dans un camp et en fonction des endroits où tu te rends, tu choisis tes activités. Je trouve ça pas mal. Et il y a des. En multi, moi, je me suis vraiment éclaté sur des trucs où, tu dois suivre un char, défendre, gagner du terrain. Ça marche. Franchement, ça marche. Même si tu meurs beaucoup, tu as l'impression de participer un peu à l'effort de guerre. Quoi. Donc,
c'est le but.
Tu dis ok, je prends. Je comprends.
Call of Duty World War II chez Activision, bien sûr. Quelques minutes, ça va être très rapide, Mathias.
Okay,
Mathias, mais t'es tout seul, donc on va te laisser.
J'ai mis le pins.
T'as mis le pins. On va parler donc de South Park, l'anal du destin.
We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Mega Pump Hut! The only reason the Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking cheaters who sold out! Coon and friends assemble! Freedom Pals, unite! Motherfucker! You're such a dick, Coon! Mosquito away! Super Craig is gay.
Tana!
Until next time, do the fuck? Oh! Are you shitting me?
RPG South Park, deuxième épisode. Quand je dis rapide, c'est rapide, hein, Mathias, mais il fallait qu'on parle un peu de ça parce que ce qui avait surpris la première fois, c'était l'ampleur d'un RPG South Park avec l'univers de South Park, la mythologie South Park inclus dans un RPG hyper vaste, enfin hyper ambitieux finalement en termes de RPG, et avec un graphisme évidemment très cohérent avec l'œuvre originale. Là, deuxième épisode, on reste dans ce...
Complètement. Alors, on avait très peur parce que c'était Obsidian qui avait participé au développement du premier, avec Trey Parker et Matt Stone, qui étaient là aussi sur l'écriture. Trey Parker et Matt Stone sont restés. Obsidian est parti, c'est 100% Ubi. Donc tout le monde a eu très très peur. Personnellement, j'ai trouvé ça très fort. Ils ont repensé le système de combat pour un truc beaucoup plus tactico-RPG. Donc on a une map qui est quadrillée. Suivant le personnage, tu as des pouvoirs à effet qui font différentes zones. Donc tu réfléchis où tu places tes persos. Est-ce que tu prends un temps pour les déplacer, pour machin, etc. Donc ça, c'est plus profond. Quand tu aimes le jeu de rôle tactique, tu prends un pied pas possible. Après, je trouve ça... sur l'écriture, on passe un moment de fou. Ouais. Enfin, pour moi, ça reste l'univers South Park. Alors, j'ai vu des critiques, des gens disent « Oui, mais c'est du South Park il y a 10 ans, c'est plus du South Park actuel. » Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on joue beaucoup, on voit plein de choses. Il y a du politiquement incorrect, il y a du transgenre, la religion, bien sûr, la pédophilie. Il y a, Trump est évoqué aussi, parce que le Canada, en fait, c'est lui qui a construit le mur, évidemment. en mode Monty Python, il y a quelqu'un qui est évidemment sur le mur et qui se fout de la gueule des Américains de South Park en disant « Vous ne rentrerez pas chez nous, nous c'est très bien, etc. » C'est très très riche, c'est un jeu qui nécessite de passer du temps pour lire toutes les petites descriptions, les trucs. Oui. Moi je trouve ça vraiment une très grande réussite. Le jeu a été pensé pour que, en fait, le gameplay... C'est pas un épisode en fait, sur lequel tu pourrais coller n'importe quelle forme de gameplay. Tout est imbriqué et de façon intelligente. Je prends un exemple qui pour moi illustre parfaitement ça. C'est que tu es en train de te concentrer pour faire une bataille. Donc, tu as ton placement de joueur et tout, tu réfléchis, etc. Et là, tout d'un coup, tu entends une voix qui dit « voiture, voiture, voiture », parce que les gamins sont au milieu de la route en train de se battre. Et là, tout le monde monte sur le trottoir, tout s'arrête, il y a la bagnole qui passe, avec un adulte qui conduit, évidemment, qui t'insulte en disant « genre, vous pouvez pas jouer ailleurs, etc. » Et pour moi, ça, c'est génial. Ouais. C'est South Park, c'est l'esprit. Ouais. C'est comme le fait de choisir la difficulté en fonction... Enfin, ça change la couleur de ton personnage. Donc, plus ton personnage est noir, plus le jeu est difficile. Ben voilà, pour moi, oui, ça, voilà, on est dedans. Ouais. Et c'est le jeu qui influence le gameplay. Et, enfin, c'est l'esprit de South Park et dans le jeu. Enfin, ça a une influence sur le jeu. C'est pas juste un habillage pur et dur. Voilà. Bon, je pourrais y passer des heures, mais je, personnellement, je...
L'Anel du Destin, donc le South Park, le deuxième RPG. Je trouve ça toujours très ambitieux, moi, de la part d'Ubisoft, de porter ce genre de truc avec cette telle... la volonté de détail, d'être très, très précis, très fin dans cette mythologie-là, c'est toujours assez impressionnant. Merci tous les deux pour ce... Je sais pas, j'ai pas fait ça dans l'ordre. Oui, voilà, c'est donc, en fait, cette émission, c'est fini, hein, donc pour le jeu vidéo cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, chers amis, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors, j'allais vous parler de Blade Runner 2049, mais non, en fait, parce que je vais utiliser des mots que je vais regretter, donc j'ai pas aimé du tout. Vraiment, j'ai pas aimé. Je suis peut-être trop attaché à l'original.
Non,
j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. On en reparlera peut-être une fois. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu un reportage cette semaine de la série Science Grand Format sur France Télévisions, sur la pyramide de Khéops. Vous savez, les découvertes qui ont été faites récemment. Passionnant. Ça doit être en replay encore cette semaine. Je sais pas comment. Ça doit rester une semaine.
La chambre avec ultrasons et on sait... Alors, pas
avec les rayons cosmiques, en fait, ça dure 1h30, mais c'est passionnant. Ils expliquent comment les chercheurs travaillent avec les rayons cosmiques pour détecter justement les zones. Et donc des pièces ont été découvertes. On voit le temps que ça prend, les différentes spécialités, ce qu'il faut modéliser en 3D. Enfin, il y a les différents corps de métiers qui travaillent pour découvrir. C'est passionnant, ça dure 1h30, ça va être encore en replay une semaine. Courez voir cette émission, c'est fabuleux. Et on voit qu'on est qu'au tout début, a priori, de grandes découvertes sur la pyramide de Khéops.
Yes. Mathias.
Moi, je recommande un documentaire sur Netflix qui s'appelle Jim and Andy, qui est donc un documentaire sur le making-of du film de Miloš Forman qui s'appelle Man on the Moon, qui est donc le biopic d'Andy Kaufman, un humoriste avant-gardiste et qui a été incarné par Jim Carrey au cinéma. Et à l'époque, le studio n'ont pas voulu que tout ce qui avait été tourné pendant le making-of sorte, parce que ça allait nuire au film. Et effectivement, on comprend pourquoi, je ne sais plus combien, 10 ans plus tard, je crois. Et c'est fabuleux. On voit que Jim Carrey est quelqu'un de très particulier, fou, sûrement quelqu'un d'assez imbuvable. Mais ça sert le film. Et c'est vraiment un documentaire. Si on aime le film, si on aime Jim Carrey, le cinéma et tout ça, faut y aller. Très instructif, vraiment passionnant.
Alors, moi, j'ai vu la deuxième saison de Stranger Things. C'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Les gamins, ils ont mon âge. Enfin, ils avaient mon âge.
Génération.
Voilà. Enfin, ils ont 12 ans en 1984. Hein, voilà, c'est moi. Donc, forcément, ça me parle. Après, c'est super bien fait. C'est très efficace du début à la fin. On est un peu sur des, un peu dans, comme dans un Call of Duty, en fait.
C'est
voilà. C'est une sorte de Call of Duty des années 80, où on découvre. C'est bien fait. On arrive à la. Mais je voulais aussi parler d'un truc absolument dingue. C'est le jeu Stranger Things sur mobile qu'on peut télécharger gratuitement. Le jeu est absolument incroyable, on est sur du 16 bits et c'est avec des donjons à la Zelda, avec des énigmes, avec des trucs comme ça. Non, il n'y a pas de lootbox et c'est super bien fait, ça se joue très très bien sur portable. En plus, c'est pas un tout petit jeu, c'est vraiment les trucs sont vraiment grands et tout ça et c'est très agréable.
C'est un pur objet promotionnel en fait.
C'est un pur objet promotionnel mais bien pensé, donc le jeu Stranger Things sur voilà, très bien. Merci à tous, nous on se retrouve donc très bientôt sur No Life, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.